Allez-y, madame, j'y repasse par la porte.
Merci.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger une femme qui est vraiment soumise à ça?
Ça, c'est une violence légale.
Je ne peux pas dire « j'ai abandonné ». Non, ça ne va pas. Je dois faire.
Vous savez que ça ne va pas déboucher.
Mais je vous aide à vous dire « bah, vous êtes encore debout ».
Bienvenue dans la série « Écoutez, agir », le rôle de Citadelle dans la lutte contre les violences conjugales. Ce podcast est le fruit d'une collaboration entre la direction égalité de la ville de Nantes, Citadelle, le lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, Erel Latimier, créatrice sonore, et moi-même, Clémence Leveau. Vous êtes dans l'épisode 4, « L'amour de ma fille m'a fait tenir », où Nina, Yasmine et Chloé parlent d'idéal de famille, d'enfermement et de besoins en matière de parentalité.
Les gens se disent que vous êtes une petite chose fragile et que vous n'avez même pas été foutu de sortir de ça, que du coup vous avez mis vos enfants là-dedans et que souvent le regard, j'ai déjà entendu des conversations familiales, etc., où les gens disent oh, allez, encore une histoire de femme là-dessus. Franchement, je ne comprends pas comment les gens peuvent subir ça. Et j'arrivais pas à parler parce que j'arrivais pas à prendre la parole pour défendre cette voie-là, faire l'avocat du diable. Parce que c'est un monde à part. Et tant qu'on n'y a pas touché, on ne peut pas comprendre la dynamique.
Souvent, quand il y en a, ce sont les enfants qui ont constitué le déclic pour partir, pour ne plus risquer le pire. Mais après alors, comment poursuivre, tenir, faire face à l'isolement des familles monoparentales, expliquer aux enfants ce qui doit l'être, admettre qu'ils et elles sont co-victimes, affronter le jugement extérieur et supporter le maintien du lien avec l'auteur, malgré la séparation. Nina.
La facilité, c'est de se dire que la femme est fragile ou qu'elle veut bien l'accepter. Mais jamais on va se positionner en disant que c'est une femme endurante, courageuse, qui se bat pour ses idéaux, pour sa famille, qui est très tolérante au point d'essayer de voir les parties les plus nobles chez quelqu'un qui peut avoir un comportement très sombre. On va jamais voir ça chez cette personne. On va juste voir sa fragilité ou sa faiblesse. Mais c'est pas seulement qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle croit au fait qu'elle va y arriver. Elle croit qu'elle va aider la personne. Elle croit que l'environnement va évoluer et qu'elle va pouvoir offrir autre chose à sa famille. Bien sûr que c'est ça qui nous motive. Et puis elle croit en la peine ou au pardon qu'on lui demande en face. Elle croit vraiment. Elle a une capacité à se mettre en empathie avec cette personne en disant « Mais ça doit, il doit tellement s'en vouloir. Ça lui doit lui faire tellement de peine de m'avoir fait souffrir. Ça doit lui faire tellement de peine d'avoir montré ça aux enfants. » Que du coup, on regarde ça en fait. En se disant, ben, comme tout le monde, on mérite une autre chance. Bon, là, il s'est vraiment planté. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Il ne voulait pas faire ça. Il ne voulait pas agir comme il l'avait. Je vois bien qu'il s'en veut. Et puis, voilà, il s'en veut tellement. Je vois bien qu'il s'en veut. Donc, bon, allez, avoir une famille, mener à bout le projet d'un couple ou d'une famille, on sait que ça fait partie. Il y a des épreuves sur le chemin. J'accepte que ce soit une des épreuves et je focalise sur ce qu'il y a de positif et sur ce qu'on a encore à construire en commun. Et c'est ça, en fait, la logique derrière. C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas sur « j'ai subi ça, ça aurait été dangereux », etc. On ne regarde pas ça. On regarde le positif de cette situation. Ça paraît aberrant, mais ça aide à tenir, en fait. Parce que quand on a des valeurs profondes, qu'on veut vraiment avoir une unité familiale, qu'on veut... Voilà, qu'on a une idée de, ouais, de famille idéale, ben on s'y accroche en fait, en se disant ben, « ma famille, elle vaut tous les moyens ». Et si je dois endurer voilà, d'être passée par ceci ou cela, ben alors le bonheur d'être ensemble fait que ben, c'est rien à côté en fait. Je dois au moins à mes enfants. Quoi. C'est une rhétorique particulière, j'entends bien. Parce que la facilité de se dire ben, « non, ce qu'on doit à ses enfants, c'est d'abord les protéger ». Mais on est persuadé qu'on arrivera à les protéger dans ce système. On ne se dit pas bah, « je veux un bonheur familial à tout prix, donc mes enfants vont payer ça avec moi ». On n'est pas du tout là-dedans. Au contraire, on se dit bah, « on va se serrer les coudes, on va y arriver, on va leur montrer la résilience, voilà, donner une chance à une autre, ça passe par là, moi je monte les dents ».
Donc là, on arrive dans la seconde salle d'attente, la grande salle d'attente où les femmes ont rendez-vous.
Clarisse, agente d'écoute et d'information.
Donc là, elles peuvent se poser. C'est une grande salle qui est assez aérée, assez paisible. Elles peuvent, voilà, s'il y a besoin, on a un distributeur d'eau fraîche, surtout en ce moment, c'est important. Et on a une petite salle de jeu pour les enfants, pour qu'ils puissent patienter quand les mamans sont en rendez-vous ou quand les nounous des SOS Garde d'enfants viennent prendre un petit temps avec eux lors des rendez-vous des mamans.
Est-ce que tu peux me décrire la salle de jeu pour les enfants ?
Alors, c'est une grande salle spacieuse. J'ai dit une petite salle, mais non, c'est quand même une grande salle spacieuse, avec des petites tables pour que les enfants puissent jouer ou dessiner. Il y a des livres également, on va rentrer du coup dans la salle. Ils ont deux gros coussins où ils peuvent se poser dessus, prendre des livres pour se poser également. Il y a des petites dinettes, des petites poussettes, il y a plein de petits jeux comme des caplas, il y a des petits circuits de voiture qui sont pas très loin. Et puis on a des petites cabanes aussi, où certains, ça devient un petit peu leur cocon. On voit, ils prennent les jeux avec eux et ils viennent se poser en fait dans la cabane. Et ils sont un peu dans leur petite bulle aussi de sécurité à eux. Et des fois, c'est vraiment, il y a plusieurs enfants, donc ça, il y a beaucoup de vie. Des fois, on entend, ça rigole, ça crie, c'est voilà. On a toujours des crayons feu, crayons couleur et des coloriages. Donc papier libre, où moi je leur imprime, ou les collègues leur impriment des coloriages à faire. Et ils peuvent venir me demander, souvent ils viennent me demander ce qu'ils veulent en termes de coloriage. Et je prends toujours un petit temps pour leur sortir en fait ce qui leur fait plaisir, ce dont ils ont envie. Ou même des fois prendre un petit temps quand je peux et l'activité me le permet, d'aller prendre un petit temps avec eux aussi en salle de jeu. Et toujours leur montrer où je suis située et leur montrer aussi où va être en rendez-vous leur maman pour les rassurer. Leur montrer qu'elle n'est pas loin, qu'elle reste au sein de la structure, à l'étage. Et c'est aussi leur dire, voilà, s'il y a quoi que ce soit, tu peux venir me voir. T'as une question, des choses toutes bêtes, tu veux aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Moi, je suis là, la porte est ouverte. Et ils prennent assez facilement le pli, ils viennent souvent me voir. Et ça les rassure, même s'ils viennent dessiner. Certains, en fait, ne veulent pas rester en salle de jeu et se mettre dans la petite salle d'attente qui est juste à côté de moi. Ou certains veulent se mettre avec moi dans mon bureau pour dessiner. Donc là, c'est plus compliqué. Je leur explique qu'il y a des choses qui vont être dites par téléphone, qu'ils ne peuvent pas entendre, ou qu'il y a des femmes qui viennent et que je ne peux pas les garder avec moi dans le bureau. Donc je les garde dans la petite salle juste en face de moi. Et eux savent qu'ils sont... Voilà, ils savent où je suis et ça les rassure également.
Je dormais mal la nuit, je faisais des cauchemars nocturnes. Les journées, j'étais angoissée, j'étais stressée.
Yasmine.
Et pourtant, j'arrivais à m'occuper de ma fille. Je pense qu'émotionnellement, je contenais énormément. Elle devait sûrement ressentir. Ce qui m'a aidée, c'est mon côté auxiliaire de périculture. À lui parler, à lui expliquer les choses. Parfois, je ne lui parlais pas forcément, mais à rester... douce, posée avec elle et de me détacher de ce qui se passait et de me poser avec elle et de jouer avec elle, de montrer que j'étais présente. Je pense que l'amour de ma fille et ce que j'ai vécu m'a aidée à bien m'occuper de ma fille, à lui faire à manger, à avoir envie de faire à manger, envie de m'occuper d'elle. J'imagine qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas la force de s'occuper de leur enfant. Rien que de les habiller, de les crémer, d'avoir envie de jouer avec eux, d'être vigilante. Ça, c'était pas facile d'être vigilante. Quand on n'est pas bien, submergé d'angoisse, de surveiller sa fille pendant qu'elle joue. Par contre, c'était très très difficile pour moi d'aller dehors. Je m'enfermais à clé. L'insécurité était très intense. Je me forçais d'aller dehors pour que ma fille prenne l'air. Et ce qui était génial, c'est que là où j'étais chez mon amie, c'est qu'il y avait un espace boisé et qu'il y avait des portails tout autour de l'immeuble. Oh, ça me sentait je me sentais en sécurité. Et qu'il y avait l'interphone aussi. Et en plus, elle n'avait pas son vrai nom sur l'interphone. Et elle venait d'emménager dans un autre immeuble. Du coup, monsieur, il ne connaissait pas du tout l'endroit où je vivais. Donc, je me suis dit, il ne peut pas nous retrouver. Et par contre, ce qui me faisait peur, c'est que je savais. Ce que le gendarme avait expliqué, c'est qu'il pouvait prendre ma fille et ne jamais me la rendre. Qu'il n'était pas obligé de la rendre parce qu'il a l'autorité parentale. Et ça me faisait énormément peur. Parce que moi, j'étais toute seule, dans le sens où j'ai pas de famille, d'amis ici. et que lui, il avait sa famille, des amis, parce que monsieur a un, il a une sécurité financière, il gagne bien sa vie, il est bien vu par tout le monde.
Elles sont dans une demande de protection de leurs enfants, donc souvent un accompagnement psychologique, mais aussi pour elles.
Léonie, coordinatrice de parcours.
Un soutien à la parentalité. Nous, on oriente directement à notre collègue qui s'occupe de ça, qui fait du soutien à la parentalité auprès des femmes et qui peut également recevoir les enfants. Mais voilà, ça peut aussi être la porte d'entrée, effectivement, à Citadel. Voilà, à un moment donné, elles se rendent compte que leurs enfants, ils sont aussi victimes et qu'ils sont en grande souffrance. Donc, elles demandent de l'aide en priorité pour leurs enfants. Et puis ensuite, nous, on les amène aussi à se mettre au travail, elles, de leur côté. Pour essayer de comprendre la situation et dans laquelle elle est et voilà, lui proposer un accompagnement autour des violences.
Je suis psychologue clinicienne et j'interviens à Citadel via l'association Les Pâtes au Beurre.
Clotilde.
Les Pâtes au Beurre, c'est une association d'accueil parents-enfants qui reçoit gratuitement, de manière anonyme, sans rendez-vous, les familles, et en particulier les parents, avec ou sans leurs enfants, pour la prévention des relations familiales, des relations parents-enfants. Et vraiment, on prend soin des liens. Dans le contexte de Citadel, les mères viennent dire à quel point, en effet, elles, déjà, parfois, elles ont été isolées et elles se sont retrouvées en situation d'isolement dans la relation conjugale. Et que cette situation d'isolement, elle va pas en s'arrangeant quand elle décide de s'émanciper et de quitter le père de leurs enfants, avec parfois des incompréhensions de l'entourage, et avec une surcharge de préoccupations. Quand en plus elles ont à traiter, bien évidemment, leur propre sidération, parce que parfois elles sont dans un tel état psychique que elles, là aussi, elles sont pas en disponibilité psychique pour être à toutes les places et penser à tout. Et ça, de fait, c'est déjà pas viable quand on est deux parents, hein, d'être à toutes les places. On l'a tous expérimenté pendant les confinements où on s'est bien rendu compte qu'on pouvait pas être à la fois parent, professionnel, professeur d'école. Donc quand on est une femme seule, ça n'est pas tenable non plus.
J'appelais. Alors, ce qui était compliqué, c'est pour joindre Citadel, pour pouvoir les appeler.
Yasmine.
Et pouvoir raconter ce qui se passait. J'aurais eu besoin de discuter. Parce que je. Dans ma situation, j'avais appelé des amis. Donc, des amis proches, qui me semblaient proches pour moi, qui vivaient en Bretagne. Et lorsque j'avais prévenu de ce qui se passait, donc on a été un groupe de 4 filles. Donc il y avait moi et 3 filles. Et sur les 3 filles, il y en a 2 qui m'ont demandé d'enlever la plainte. Parce que ça va détruire la vie de monsieur, parce que monsieur était pompier. Et ses concours, comment il va faire? Et ma fille, si je porte plainte et que moi je suis fragile et que je prends des cachets... on va enlever la garde de ma fille, elle va finir en famille d'accueil. Tu as pensé à son avenir, tu as pensé au papa, il ne pourra plus l'avoir. Tu sais ce que ça fait de ne plus voir son père. sans se demander une seule fois ce que je pouvais ressentir, quelles sont mes valeurs, quel était mon avis dans tout ça.
Comme il s'est battu pour avoir la garde alternée et qu'il l'a obtenue,
Julie,
il a le sentiment d'avoir gagné. Et donc ça va mieux entre nous, dans le sens où il s'acharne moins, m'envoyer des mails, plein de messages agressifs. Donc ça, pour ça, c'est mieux. Et puis moi aussi, je vais mieux. Donc je sens que c'est terminé. Enfin, j'ai plus peur de lui. Ça, c'est la grosse différence. Mais il continue toujours d'utiliser les enfants comme levier de pression. Et de façon hyper sournoise. Donc je suis vraiment sur mes gardes tout le temps. Il utilise notamment le fait que je ne puisse pas les appeler librement, sans forcément appeler toutes les heures, mais juste appeler tous les 3 jours. Il joue sur ça pour me faire attendre, sans me prévenir. Voilà, il rejoue de silence. Et puis de temps en temps, il y a une pique d'agression qui arrive. Donc en fait, c'est comme s'il fallait être toujours sur ses gardes. Sauf que maintenant, je suis plus prête. Je sais comment il est. Donc.
Tu sais faire face.
Je sais faire face. Mais je sais que toute ma vie, je ferai attention à lui.
Souvent, pour les mères, ce sont des inquiétudes sur des comportements des enfants de colère, d'opposition.
Clotilde, pour les pâtes au beurre.
Qui peuvent potentiellement les inquiéter. Mais ça peut être aussi une symptomatologie autour de la santé, par exemple, des difficultés alimentaires ou une somatisation. Il peut y avoir souvent aussi un enjeu de la question des limites. Par exemple, avec aussi les problématiques de séparation. Comment j'accompagne mon enfant dans les transitions, par exemple, entre la semaine chez papa, la semaine chez maman, ou après le week-end chez le papa. Parce que l'enfant, il va forcément, en tout cas, manifester aussi parce qu'on sait... Alors après, ça dépend des tranches d'âge, bien évidemment, mais pour les tout-petits, par exemple, que justement, tous les temps de transition, ça n'est pas une évidence et que tous les changements demandent un petit temps de réadaptation à l'environnement.
Qu'est-ce que la problématique des violences ajoute de complexité et de ressenti chez les enfants ou dans les relations parents-enfants qu'il y a moindre ou pas dans les familles où il n'y a pas de violence?
Alors, je pense à la question de l'imprévisibilité. C'est-à-dire que ça met les enfants dans un quotidien où peuvent survenir à tout moment des situations extrêmement stressantes, voire potentiellement dangereuses, où ça les met aussi à la merci de ce qui se passe. Or, on sait que ce qui va structurer le quotidien de l'enfant pour structurer son psychisme, c'est justement de lui épargner tous les moments d'imprévisibilité, même si, dans l'absolu, le quotidien est fait d'imprévisible. Mais on sait à quel point c'est important de pouvoir donner des repères aux enfants sur des choses qui reviennent régulièrement, des rythmes, des rituels, puisqu'ils n'ont pas la même notion du temps que les adultes. Or, eh bien, quand surgissent à tout moment des situations conflictuelles sans que l'enfant ait pu identifier ce qui avait déclenché ça, c'est extrêmement inquiétant. Et c'est cette situation de stress qui va, bien évidemment, abîmer ou en tout cas créer une insécurité interne.
La seule chose que je trouve difficile aujourd'hui, c'est la charge parentale que je continue de porter largement.
Chloé, que vous avez déjà entendue dans l'épisode 1.
J'ai jamais souhaité être mère seule dans la vie. Je trouve que c'est difficile pour soi, pour l'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui relève presque de l'enfermement que moi j'ai mal vécu dès les débuts de la maternité, en fait, que j'aurais imaginé que la parentalité était quelque chose de plus équilibré, de mieux partagé. Et 2 ans et demi après, je suis toujours avec un rapport... Je sais pas comment le formuler simplement, mais en fait, à la fois, j'aimerais que mon ex-conjoint s'investisse plus, et en même temps, je vois qu'il ne le fait pas, et du coup, je suis toujours un peu dans l'attente de quelque chose de mieux partagé, mais qui semble improbable du fait que lui, j'ai l'impression qu'il ne fait pas ce travail que je fais de soins relationnels. Et du coup, il n'y a plus du tout, depuis notre séparation, il n'y a plus du tout d'échange ni de dialogue sur la manière dont on évolue depuis notre rupture. Lui n'a pas du tout envie de ça. Moi, j'ai essayé de proposer des cadres, y compris via des médiations, mais il n'a pas du tout envie. Donc voilà, c'est pas non plus le but, c'est pas d'imposer à l'autre ce travail-là. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais n'empêche que c'est quand même moi qui porte la charge parentale aujourd'hui. C'est pas toujours facile pour ma fille qui voit que je suis toujours un peu habitée par mes projets d'indépendante. C'est une vraie charge, quoi, de devoir s'occuper d'un enfant avec les contraintes de l'école, des horaires, des grèves, d'être seule, et puis en même temps de devoir mener sa barque professionnelle, gagner suffisamment d'argent pour maintenir son niveau de vie. Enfin, c'est pas très facile et on n'est pas très soutenu. C'est vrai que les familles monoparentales sont les personnes les plus précaires, on voit statistiquement, on comprend mieux pourquoi. Il n'y a pas beaucoup d'aide à cet endroit non plus. C'est vrai qu'être mère, on a vraiment l'impression que c'est la dernière roue du carrosse quand on sort du couple, quoi. C'est vraiment, effectivement, c'est pas très confortable. Et je pense que je fais partie des personnes très privilégiées parce que j'ai un niveau d'éducation qui me permet de quand même poursuivre mon activité professionnelle et même de prétendre à des projets assez ambitieux, quand bien même c'est toujours une gageure de réussir à organiser la garde de ma fille en parallèle. Mais j'ai quand même beaucoup de chance, en fait, dans cette transition, et je réalise que c'est pas le cas de toutes les femmes et c'est difficile, en fait. Je trouve qu'être mère seule aujourd'hui dans la société française, c'est dur, quoi. C'est très très dur. Et je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de lieux, de dispositifs qui soient à l'écoute de cet endroit. C'est important pour les enfants comme pour les mères, en fait. C'est super... c'est beau d'éduquer la génération qui vient et de leur donner des moyens de la douceur, de la compréhension, de l'écoute, de l'attention. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai enjeu en tant que société à réussir à le faire.
C'était Écouter Agir, le rôle de Citadelle dans la lutte contre les violences conjugales, épisode 4. Ce podcast est le fruit d'une collaboration entre la Direction Égalité de la ville de Nantes, Citadelle, le lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, Erel Latimier, créatrice sonore, et moi-même, Clémence Levaux.